RTL Info.
Claire Vigier.
Bonjour, tous les regards sont tournés vers Moscou. À 17h, la finale de la Coupe du Monde de football va opposer la France à la Croatie dans une partie qui promet d'être âprement disputée. Jean-Philippe Pathé est à mi-parcours, parti fin juin de la Brévine. Il est embarqué à bord d'un kayak pour descendre la rivière Yukon, de sa source jusqu'à la mer de Bering. Le Narcisse du meilleur film à climax de Caspar Noé, la 18e édition du NIF, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel, s'est achevée hier soir. Gros effort matinal pour les sportifs de la région lors du triathlon de la Neuve-Ville. Ce sont Michel Vernier et Camille Zimmermann qui ont remporté la 18e édition de l'épreuve. Et puis personne n'est à l'abri d'un violent orage aujourd'hui en terre neuchâteloise. Précision avec Florian d'ici un petit quart d'heure dans la page météo. La planète foot est en ébullition. La finale de la Coupe du Monde se tient cet après-midi en Russie. C'est la France et la Croatie qui se disputeront le trophée des 17h à Moscou. Un rendez-vous qui représente le match d'une vie pour les joueurs et leurs compatriotes. Tant en France qu'en Croatie, les supporters se sont donné rendez-vous pour soutenir leur équipe. Le défenseur français Samuel Umtiti se sent poussé par tout un pays et a hâte d'en découdre.
On a vu des vidéos de nos proches ou de nos amis, et là on se rend compte qu'il y a quelque chose de grand et qu'il y a tout un peuple qui est derrière nous et qui attend cette Coupe du Monde. Donc ça donne encore, je dirais pas de pression, mais plus d'envie encore de faire les efforts sur un match et de gagner. Mais on sent que vraiment toute la France, ça soit n'importe où, mais toute la France, tous les Français sont avec nous.
Et de cette finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie, on en reparlera plus largement dans le journal de la Coupe du Monde. Ce sera juste après le reste de l'actualité. Jusqu'à 27 000 véhicules déviés par le col de la Vue des Alpes. Les travaux d'entretien de la H20 entre la demi-jonction de Boutevilliers et le giratoire du Bas-du-Raimont débutent demain matin à 4 heures. Ils dureront 2 semaines jusqu'au 27 juillet y compris. Ces travaux impliquent l'engagement de plus de 50 personnes, cantonniers, électromécaniciens et entreprises privées. Jean-Philippe Pathé est à mi-parcours. Il avait quitté la Brévine le 25 juin en direction du Canada pour descendre en kayak la rivière Yukon de sa source jusqu'à la mer de Bering. Un périple de 3200 km. Hier, il avait accompli plus de la moitié de son expédition. Jean-Philippe Pathé.
Je suis entre Beaver et Steven Village. Ça veut dire que j'ai passé la moitié de l'expédition, plus 300 km. Donc au niveau kilométrage, tout ça, ça se passe vraiment très très bien. Je suis très très satisfait de la première partie. Une première partie qui s'est passée à faire quelques améliorations, puisque j'avais ma logistique que je pouvais retrouver tous les 300-400 km. Maintenant, j'ai quitté ma logistique à Sirkeuse, ça fait un coup de 500 km déjà, où je suis seul, jusqu'à la fin je serai seul. Donc tout se passe pour le mieux. En ce qui concerne la faune, les animaux, tout ça, j'ai pas vu grand chose. Effectivement, sur le fleuve, on voit pas grand chose. Mais comme j'avais dit au départ, j'ai pas peur des ours, parce que quand on les dérange pas, si on respecte leur coin, ils se manifestent pas. Donc moi, j'ai fait en sorte de ne pas les déranger, tellement peu déranger que j'en ai pas vu. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de vivre ce que je suis en train de vivre dans des conditions absolument exceptionnelles. J'ai eu la chance, j'ai eu du beau temps jusqu'à hier soir. Donc tout se passe bien.
Et pour cette seconde moitié de périple, Jean-Philippe Pathé se prépare à trouver une rivière moins rapide, le Yukon se divisant en plusieurs bras. Le Brévinier espère atteindre Bering d'ici 2 à 3 semaines. C'est climax du réalisateur franco-argentin Caspar Noé qui a obtenu le Narcisse du meilleur film du NIF, le jury du Festival international du film fantastique de Neuchâtel, sous la direction du réalisateur David Cronenberg, lui a remis sa récompense hier soir au terme de 9 jours consacrés au 7e art. La directrice artistique du NIF nous explique quel impact ce Narcisse va avoir sur la vie de climax. Anaïs Emery.
Pour la Suisse, c'est évident. À l'international, je pense que le Festival de Neuchâtel est reconnu pour être un festival qui a des goûts très exigeants et qui est très cinéphile et qui est justement innovant dans sa programmation, qui a apporté un peu un nouveau souffle sur la vision, la définition du cinéma fantastique. Donc, respectivement, sous ces aspects, oui, c'est important, d'autant plus que notre trophée a été designé par H.R. Giger, qui est quand même un des artistes suisses qui a connu la carrière internationale la plus époustouflante et qui est maintenant, malheureusement, décédé. Donc c'est quand même un héritage assez important. d'obtenir le Narcisse à Cher Guiguer du meilleur film ici à Neuchâtel.
Avec 44 000 entrées, la 18e édition du festival a enregistré un record d'affluence. Rendez-vous du 5 au 13 juillet pour le NIF 2019. L'exode vers le sud provoque d'importants bouchons depuis vendredi matin à l'entrée nord du tunnel du Gothard. Hier, une colonne de véhicules atteignant jusqu'à 14 km s'est formée à l'approche de l'ouvrage. De nouveaux encombrements sont attendus aujourd'hui. Via Suisse rappelle qu'il existe des itinéraires alternatifs, notamment par le San Bernardino ou l'école du Saint-Plon et du Grand Saint-Bernard. Les forces du régime syrien bombardaient intensivement depuis l'aube la province stratégique de Kouneitra dans le sud de la Syrie, où elles ont déjà pris le contrôle d'une première localité, selon une ONG. Aucun bilan des combats n'était disponible dans l'immédiat. Le conflit syrien a déjà fait plus de 350 000 morts depuis mars 2012. Quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu, les Palestiniens ont effectué la nuit dernière deux tirs de mortier sur Israël. C'est ce qu'a déclaré l'armée israélienne. Elle a répliqué en frappant l'arme utilisée pour cette attaque dans la bande de Gaza. Aucune victime ou dégâts n'ont été rapportés. Depuis le 30 mars, la zone frontière avec Israël est le théâtre de manifestations contre le blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens chassés de leurs terres ou qui ont fui la création d'Israël en 1948. Au chapitre de la crise migratoire, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a mis hier la pression sur ses partenaires de l'Union européenne pour qu'ils prennent en charge une partie des 450 migrants se trouvant dans les eaux italiennes. Il a obtenu une réponse positive de la France et de Malte. Et puis Donald Trump a annoncé hier dans un entretien au Mail on Sunday son intention de briguer un second mandat lors de l'élection présidentielle américaine de 2020. Il semble que tout le monde veuille que je me représente, a-t-il ajouté. Donald Trump estime que les démocrates ne sont pas en mesure de lui opposer un candidat crédible.
RTL, il est 12h22.
Sport. Et le sport, c'est avec vous, Yann Esler. Bonjour.
Bonjour. Avec un triomphe neuchâtelois chez les hommes lors du triathlon de la Neuville, le Vaudrusien Michael Vernier a remporté ce matin la 18e édition de la course, disputée en 1h04:23. Il devance les Chaudefonniers Jonathan Raya de 2:47 et Maël Valla qui termine 3e en 1h06:47. Ils étaient un peu plus de 120 à s'élancer pour 400 mètres de natation, 15 km de VTT et 7,2 km de course à pied. Michael Vernier était plutôt content de sa course.
J'ai fait une course en tête, il n'y avait pas de très gros nageurs aujourd'hui, donc j'ai géré un petit peu ma journée, j'ai bien fait de gérer parce qu'effectivement sur la course à pied on a eu un bon coup de chaud. Derrière moi je savais qu'il y avait des très bons coureurs, donc c'est gérer son effort en essayant de ne pas se faire remonter sur la fin. Quoi.
Puis à la fin vous avez senti le vent sur votre nuque ou pas du tout?
Alors j'avoue que vu mes sensations, je sentais que je courais moi-même bien et donc j'ai pas trop eu de crainte, je me suis pas trop retourné, je savais que normalement derrière c'était assez loin.
On a vu aujourd'hui, c'était quand même une razzia neuchâteloise. Qu'est-ce qui explique que les neuchâtelois sont aussi en forme aujourd'hui à la Neuville?
Alors, c'est une bonne question ça. Alors à Neuchâtel, on sait qu'il y a un club qui commence à bien prendre forme, notamment au niveau de la jeunesse, c'est le Redfish, dont je fais partie. Donc il y a de plus en plus de jeunes qui poussent. Il y a les anciens aussi, neuchâtelois, qui du coup ont peur de se faire rattraper et qui s'entraînent aussi, à mon avis, de plus en plus. Donc on va dire que le niveau s'élève sur le canton de Neuchâtel grâce à cette jeunesse qui arrive.
Et chez les dames, la victoire est revenue à la bernoise Camille Timmerman en 1h18:50. La neuchâteloise Silesia Vellet termine deuxième à 1:43 de la vainqueur du jour, alors que Carole Perrault de Presles se classe au troisième rang en 1h22:33. L'épreuve comptait pour la cinquième et avant-dernière manche du championnat jurassien de triathlon. On passe au tennis. Angélique Kerber a brisé le rêve de Serena Williams. La joueuse de tennis allemande a remporté hier son troisième titre du Grand Chelem à Wimbledon. Elle s'est imposée en 2-7 devant l'américaine 6-3, 6-3. Serena Williams était en quête du record de 24 titres majeurs de Margaret Court. Mais la marche était trop haute pour l'ex-numéro 1 mondial qui disputait seulement son 4e tournoi depuis la naissance de sa fille il y a 10 mois. Et cet après-midi, place à la finale masculine sur le gazon londonien. Elle mettra aux prises le Sud-Africain Kevin Anderson au Serbe Novak Djokovic. Des 15h, deux joueurs pour qui une victoire vaudrait tout l'or du monde. Les précisions d'Anthony Montandon.
Joueur de tennis qui a éclos sur le tard, Kevin Anderson vise un premier titre en Grand Chelem. Après sa finale perdue lors du dernier US Open, le Sud-Africain semble avoir franchi un cap supplémentaire lors de ce Wimbledon. C'est sa résistance physique et mentale qui l'ont mené à la finale sur le gazon londonien. Le droitier de 2m03 s'est extrait de deux marathons à suspense face à Roger Federer en quart de finale, puis contre John Isner vendredi en demi. Si sa fraîcheur physique est remise en question, Kevin Anderson devra aussi parvenir à gérer ses émotions cet après-midi sur le court central. Le Sud-Africain aura affaire à un revenant à ce stade de la compétition. Novak Djokovic revient à son meilleur niveau après une traversée du désert de 2 ans. Le Serbe jouera pour un 4e titre à Wimbledon, un 13e au total en Grand Chelem. Son expérience lui vaudra donc d'aborder cette finale avec les faveurs du pronostic. Sa victoire épique de hier sur le numéro 1 mondial Rafael Nadal semble en tout cas avoir chassé les doutes qui le tourmentaient.
Et la finale de Wimbledon entre Kevin Anderson et Novak Djokovic, c'est donc dès 15h à Londres. Les prétendants à la victoire finale vont enfin pouvoir se montrer sur la grande boucle. La 9e étape emmène les cyclistes entre Arras et Roubaix sur 156,5 km aujourd'hui. Au menu, 21,7 km de secteur pavé pour cet enfer du Nord en plein mois de juillet. Sur la route du Tour, la présentation de cette 9e étape est signée Fred Adam.
C'est le grand jour, le premier grand rendez-vous du Tour pour les prétendants à la victoire finale. Une journée redoutée par les allergiques au pavé. Ces grimpeurs frêles qui ne sont jamais aussi à l'aise que lorsque la route s'élève et qu'ils sont libres de leurs mouvements. Aujourd'hui, c'est jour de pavé et certains ont mal dormi en songeant au menu à ingérer entre Arras et Roubaix sur les chemins défoncés du Nord. Au programme, 15 secteurs pavés, certains parmi les plus redoutables de Paris-Roubaix pour un total de 21 700 km. L'étape du jour sera courte, seulement 156 km, mais les choses sérieuses débuteront dès le 48e km avec le premier secteur du jour annonciateur de la suite des événements. L'étape annonce un vrai chantier via les fameux secteurs de Beuvry à Orchy, de Mons en Pévèle, du Moulin de Vertin ou de Canfin en Pévèle, autant de noms qui font froid dans le dos. Pour se préparer à cette étape de tous les dangers, tous ceux qui rêvent du maillot jaune, peu habitués aux classiques du Nord, se sont astreints à des reconnaissances appliquées mais à blanc. Or, rien ne remplace les conditions de course auxquelles les Van Avermaet, Sagan, Dillier ou Démare sont rompus. Selon l'équipe dans laquelle ils évoluent, les spécialistes des pavés auront pour mission de jouer leur carte personnelle ou d'épauler leur leader du nom de Porte, Bardet, Froome ou Quintana, tous exposés aux chutes et aux incidents mécaniques. Ce soir, certains des favoris auront sans doute d'ores et déjà perdu le tour. À eux de passer entre les gouttes dans l'enfer du Nord, annoncé sec et poussiéreux.
Merci à vous Claire Viget et Yann Hesler. Yann Hesler, restez avec nous puisqu'on va évidemment parler du dernier jour de la Coupe du Monde.
Le journal de la Coupe du Monde de football avec Anser et son passe liberté. Remontée mécanique, bain et carte postale offert cet été. Anser.ch.
Yann Hesler, cette fois-ci on y est, hein, c'est la finale. Tout à l'heure à 17h, on connaîtra après les 2 heures de match le champion du monde.
Ah oui, c'est le match d'une vie. La France, la Croatie en rendez-vous en finale de la Coupe du Monde. Coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 17h au stade Loujniki à Moscou. Les joueurs des deux équipes ont conscience de toucher leur rêve du bout des doigts, mais seulement du bout des doigts et pas du bout des pieds encore, à l'image du milieu de terrain des Bleus, Blaise Matuidi.
C'est une finale de Coupe du Monde, c'est un rêve d'enfant qui aujourd'hui se réalise de pouvoir disputer une finale. Elle est tellement proche, cette Coupe, qu'on a envie de la toucher, mais avant de la toucher, il y a 90 minutes, voire 120. Je pense que c'est le match de notre vie. Honnêtement, on a tous, comme je l'ai dit, rêvé de jouer des matchs comme ça et à nous de mettre tout en œuvre justement pour réaliser ce rêve qui serait de soulever cette Coupe du Monde. Moi, pour avoir fait 4 compétitions maintenant, je pense que c'est la compétition où vraiment je me sens le mieux. Parce que certes, on a un groupe jeune, mais un groupe qui vit. Et c'est vrai qu'on peut être un peu nostalgique ouais, de partir et j'aurais pu rester encore des mois et des mois tellement on est bien. C'est comme ça, il y a une fin à tout et j'espère qu'elle sera heureuse.
La France a déjà soulevé une Coupe du Monde. C'était le 12 juillet 1998. Didier Deschamps était alors le capitaine de cette équipe. Aujourd'hui, sélectionneur des Bleus, il s'est servi de son expérience pour préparer ses joueurs. Didier Deschamps.
Je pense que les 3 mots qui sont importants, c'est à la fois de la sérénité, de la confiance et de la concentration. Il faut un bon dosage sur les 3 pour préparer au mieux ce match. Chaque match a son propre contexte. Voilà, on a connu, c'est pas la Coupe du Monde, une finale de championnat d'Europe. Ça s'est mal passé, mais c'est pas parce que si ça s'était bien passé, j'aurais refait la même chose aujourd'hui. Il faut se renouveler, il faut peut-être voir surprendre par moment, même s'il y a une trame qui est toujours toujours commune parce qu'on est lié par rapport à des horaires de match. Donc évidemment, la journée, elle est remplie avec des différents rendez-vous. Je fais en sorte de m'adapter par rapport à ce que je ressens, ce que je vois. Pour l'objectif avec tout mon staff, c'est de préparer au mieux mon équipe pour ce rendez-vous.
France et Croatie ont déjà écrit une page commune de l'histoire de la Coupe du Monde. Les Bleus avaient éliminé les Vatreni au stade des demi-finales en 1998. C'est un doublé du défenseur Lilian Thuram qui avait précipité la chute des Croates. Les Vatreni l'ont encore en mémoire et entendent prendre leur revanche aujourd'hui. Vatreni, c'est donc le surnom de cette équipe de Croatie. On écoute le milieu de terrain, Ivan Rakitic.
Pa ne sjećam se jer ima u Francuskoj ili sad u Hrvatskoj još koji igrač koji je bio.
Je ne crois pas qu'un seul Croate ou Français sur cette terre, qui soit footballeur ou qui ait ne serait-ce qu'un infime lien avec le football, ne se souvienne pas de ce match. Mais nous devons laisser ça derrière nous, le passé et le passé, même si nous avons ressassé ces deux buts de Lilian Thuram pendant des années après. Mais c'est du passé. Ils avaient ensuite gagné la Coupe du Monde, je les félicite pour ça, car ils le méritaient. Mais dimanche, ce sera un tout autre match, car beaucoup d'années ont passé et on fera tout pour amener la Coupe à la maison cette fois.
Les Croates pourront compter sur le soutien de tout un pays pour cette finale. La fièvre du football s'est en effet emparée de cette nation d'un peu plus de 4 millions d'habitants. Lucas Maurer, designer de mode à Porrentruy et binational suisso-croate, il nous explique ce que ce match représente pour lui. Lucas Maurer.
Il y a une valeur sentimentale pour moi avec cette équipe de Croatie parce que lorsque j'étais petit, en fait, donc mon père est d'origine croate. Je n'ai pas eu la chance de grandir avec lui. Mais la Coupe du Monde 98 a pour moi été très marquante parce que j'ai vu ce drapeau à damier. Et en fait, à l'âge de 12 ans, ça m'a fait renouer avec mes origines croates. Donc j'ai pris l'avion, je suis retourné là-bas, peu de temps après la guerre finalement. Et puis donc j'ai découvert une nation qui était vraiment vouée au football.
Comment vous expliquez ça que finalement, six petits pays et le bassin de joueurs pour envoyer une équipe en finale?
Je pense qu'il y a une ferveur déjà autour du ballon rond et aussi une ferveur patriotique. Je pense que les Croates sont très attachés à leur pays. Ils aiment le foot aussi parce que c'est aussi un sport accessible et que les petits garçons très rapidement forment des équipes, vont jouer. Où est-ce qu'il y a de la place, ils vont jouer. Ils se font toujours une place et ils font des matchs de foot.
Ils commencent pas toujours sur une belle pelouse toute plate hein.
Oui, c'est ça. En fait, et souvent, les terrains en Croatie sont assez accidentés, avec des cailloux, des ballons dégonflés. Et donc, ces petits joueurs, en fait, commencent avec des handicaps.
Et d'après les échos que vous avez depuis la Croatie, vous sentez que l'équipe a tout un pays derrière elle?
C'est la folie absolue en Croatie. Je pense que s'ils gagnent la finale, ils mettront un moment avant de s'en remettre. C'est des années d'accomplissement. C'est un pays qui est très jeune encore. Et ils ont frôlé la finale déjà en 98. Et là, pour eux, c'est vraiment l'occasion à ne pas rater.
Du côté de votre famille, en Croatie, comment on s'organise pour ces matchs?
Alors, tout le monde est retourné au village. Et puis, ils font des grillades, ils grillent du porc, ils boivent, ils font la fête. Et puis, ils vont tous se réunir autour du match.
Où est-ce que vous allez la regarder, cette finale?
Je pense que je vais aller la regarder avec mon papa et mon frère, dans un petit bar, tranquillement. J'ai pas trop envie d'être encore plus nerveux que je le suis. Je préfère rester concentré avec les gens que j'aime.
Dans la région, il y a une communauté croate qui se retrouve pour regarder ces matchs?
Alors, la communauté croate est assez petite et éparse dans le Jura. C'est plutôt une communauté qu'on retrouve en Suisse allemande.
Et la finale de cette 21e Coupe du Monde entre la France et la Croatie, c'était 17h à Moscou.
Le journal de la Coupe du Monde de football. Le journal de la Coupe du Monde.
Oui, le journal de la Coupe du Monde, Yann Esler, difficile de faire un pronostic hein, quand même ce soir, ça va être très tendu, les Croates ont toutes leurs chances aussi de battre cette équipe de France.
Ils ont toutes leurs chances, je vais dire que le meilleur gagne pour ce soir, mais vous vouliez bien sûr me demander mon pronostic, on l'a bien senti.
Évidemment.
Alors mon pronostic pour moi, c'est la Suisse championne du monde en 2022 au Qatar.
C'est très bien, c'est beau. Bien entendu, c'est les orages qui sera champion du monde en milieu de journée. Effectivement, Météo Suisse nous annonce une météo qui va se dégrader au fil des heures avec des conditions instables qui arrivent sur notre région. Évidemment, vous serez prudent hein, aux abords des orages. Du vent pourrait souffler et beaucoup d'eau pourrait tomber au même endroit. Les températures, elles vont rester agréables. 28 degrés au meilleur de la journée autour du lac, 26 degrés pour les vallons et 23 degrés pour les hauteurs. Le début de la semaine prochaine, en tout cas lundi et mardi, ça va s'annoncer sous les mêmes conditions instables. Avec un thermomètre qui avoisinera les 23 à 27 degrés sur la région pour lundi, 20 à 25 degrés pour mardi. On aura une petite accalmie mercredi et puis ça sera le retour des orages à partir de jeudi et jusqu'en fin de semaine prochaine. Ces conditions instables vont perdurer.